retourner à Hébreux, chapitre 9. Donc on avance tranquillement. Ça va pas très vite là, mais on avance quand même. Dans Hébreux 9, on va lire depuis le verset 1er jusqu'au verset 14 inclusivement. Hébreux 9. La première donc avait aussi des ordonnances pour le culte et le sanctuaire, un sanctuaire terrestre, car un tabernacle fut construit, le premier qui est appelé saint, dans lequel étaient le chandelier et la table et la proposition des pains, et après le second voile, un tabernacle qui est appelé saint des saints, ayant l'encensoir d'or et l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or tout autour, dans laquelle était la cruche d'or qui renfermait la manne, et la verge d'Aaron qui avait bourgeonné, et les tables de l'alliance, et au-dessus de l'arche des chérubins de gloire ombrageant le propitiatoire, sur quoi nous n'avons pas à parler dans ce moment en détail. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entrent constamment dans le premier tabernacle, accomplissant le service. Mais dans le second, le seul souverain sacrificateur, une fois l'an, non sans du sang qu'il offre pour lui-même et pour les fautes du peuple, l'Esprit Saint indiquant ceci, le chemin des lieux saints n'a pas encore été manifesté tandis que le premier tabernacle a encore sa place, lequel est une figure pour le temps présent, dans lequel sont offerts des dons et des sacrifices qui ne peuvent pas rendre parfait quant à la conscience. Celui qui rend le culte, culte qui consiste seulement en viande, en breuvage, en diverses ablutions, ordonnance charnelle imposée jusqu'au temps du redressement. Verset 11. Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de bouc et de taureau et la cendre d'une génisse avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souillés, sanctifie pour la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant? On va arrêter la lecture ici. La dernière fois, on a parlé de la Nouvelle Alliance, chapitre 8. Et je voulais encore lire le verset 13. En disant une nouvelle, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est prêt de disparaître. Donc, ce qu'on a vu, dans Hébreux 8, Dieu annonce la Nouvelle Alliance. Et on a vu que ce sera fait avec Israël dans les jours à venir. Mais ce que cet épître nous montre, c'est la grandeur du Seigneur Jésus. C'est pour montrer plusieurs aspects de sa personne. D'abord, pour présenter le Seigneur comme apôtre. C'est lui qui annonce cette nouvelle alliance. On a vu Christ comme apôtre déjà, chapitre 3, plus grand que Moïse. Ensuite, on verra dans ce passage qui est devant nous, chapitre 9 et 10, plus tard aussi, qu'il a donné son sacrifice. Et là, on va voir des contrastes énormes entre les sacrifices de l'Ancien Testament et ce nouveau sacrifice qui est la base pour cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance que Dieu va conclure avec Israël dans les jours à venir ne pourrait pas être faite sans cette nouvelle base du sacrifice de Christ. Et il est aussi garant que ce soit le cas. Le premier homme ne pouvait rien garantir. On voit la chute de l'homme déjà dans Genèse 3. Et Dieu a montré par la loi, qu'il a limité donc à Israël seulement, que même par la loi, Israël ne pouvait pas plaire à Dieu. Tandis que le Seigneur Jésus a toujours fait les choses qui sont agréables devant Dieu. On verra cela surtout dans chapitre 10. Le Seigneur a établi la base nécessaire pour que cette nouvelle alliance puisse être conclue. Nous avons vu aussi que nous, les croyants de cette dispensation, nous avons déjà le profit de cette nouvelle alliance. Ce n'est pas conclu avec nous, ce sera avec Israël, littéralement. Mais nous avons les bienfaits déjà, par anticipation. Et ça s'applique exactement aux chrétiens à ce moment-là, les juifs chrétiens auxquels l'épître a été écrite, mais ça s'applique aussi pour nous, pour vous et moi, que nous avons déjà la joie de toutes ces bénédictions, qui sont encore futures pour Israël. Nous avons ces bénédictions déjà d'une façon spirituelle. Le Seigneur Jésus est présenté comme le grand médiateur de cette nouvelle alliance. Il va administrer cette nouvelle alliance pour Israël, mais nous l'avons vu déjà comme médiateur entre Dieu et l'homme, et ce sera encore le sujet jusqu'au chapitre 10. Nous avons vu aussi que le Seigneur Jésus est le précurseur. Il est déjà dans la gloire. On a vu cela dans chapitre 6, verset 19, que le Seigneur Jésus est là, dans la gloire, et ainsi nous avons une espérance qui est présentée. Ce qu'on voit dans cet épître, c'est la grandeur du Seigneur Jésus, soit comme apôtre, soit comme sacrifice, soit comme celui qui est garant pour cette nouvelle alliance, soit comme précurseur qui est déjà dans la gloire. Et ainsi, nous avons vu qu'il fallait beaucoup de choses nouvelles. Ça prenait un nouveau sacrifice. On va parler de ce sacrifice dans chapitre 9 et surtout dans chapitre 10. Ça prenait une nouvelle alliance pour une nouvelle réglementation des choses. Ça, c'est chapitre 8. Ça prenait aussi un nouveau sanctuaire, et c'est ça le sujet de ce soir. De nouveaux sacrificateurs qui peuvent entrer dans la présence de Dieu avec le vrai sacrificateur. On a lu cela dans le passage ce soir, que le Seigneur est plus grand, et ainsi il est le vrai sacrificateur, et nous pouvons entrer avec lui. C'est souvent le cas. Si le Seigneur Jésus est présenté ici, les croyants sont vus avec lui. On a vu cela déjà au premier chapitre. Il a été oint dans la gloire avec les compagnons. Les compagnons participent. Nous sommes les compagnons qui participent. Si le Seigneur est le grand sacrificateur, nous sommes vus comme des sacrificateurs, une famille sacerdotale avec lui. Si le Seigneur est le grand conducteur, nous sommes le peuple de Dieu qu'il conduit. Donc il y a toujours un lien entre lui et nous. Pour revenir à ces nouvelles choses, ce sanctuaire qu'on va voir, en contraste avec un sanctuaire terrestre, nous avons maintenant un accès au sanctuaire céleste, par le fait que le Seigneur Jésus est entré déjà, un homme dans la gloire. Il a ouvert le chemin pour nous. Et ce sera le sujet dans chapitre 10, verset 19. Un nouveau sanctuaire. Une nouvelle sphère où les sacrificateurs peuvent être avec le Seigneur Jésus. Sur la base de ce nouveau sacrifice, et ainsi il y a donc une compagnie d'adorateurs. C'est vraiment un contraste avec les adorateurs dans l'Ancien Testament. Et aussi, au début, dans les évangiles, les adorateurs étaient dehors. Nous, par la grâce de Dieu, où sommes-nous? Nous sommes en dedans. Nous avons un libre accès, nous pouvons adorer dans la présence immédiate de Dieu. Donc il y a beaucoup de contrastes tout le temps. Et beaucoup de liens précieux entre le Seigneur Jésus et nous. Donc, au verset 13 du chapitre 8, nous avons un exemple de ce contraste. La nouvelle alliance, ça veut dire que la première est devenue ancienne. verset 13. Et il ajoute ce qui devient ancien, parce que c'était un temps de transition. Il faut comprendre que l'Épître aux Hébreux a été écrit dans un temps de transition, où le temple était encore là, donc le vieux système était encore là, comme si Hébreux ne réfère pas au temple, Hébreux réfère au service dans le tabernacle, dans le désert, parce que c'est une épître pour le désert. Mais quand même, ce même service avait encore lieu dans ce temps-là, dans le pays, dans le temple. Et ainsi, les grands contrastes sont tracés entre ce qui se passait à ce moment-là et la réalité introduite par le Seigneur Jésus. Les deux systèmes allaient encore ensemble, pour un temps, jusqu'à l'année 70, où le temple était détruit. Ces deux systèmes allaient encore ensemble. C'est pour ça que je dis que c'était un temps de transition. On ne sait pas quand le Seigneur va venir, on espère qu'il va venir aujourd'hui. Mais supposons que le Seigneur nous laisse encore ici, ça pourrait être le cas, je ne dis pas que ce sera le cas, mais ça pourrait être le cas, qu'on verra encore la reconstruction du temple, et que ce même service de l'Ancien Testament va être réinstitué. Et ainsi, on aura encore un temps de transition, mais dans un autre sens, de la fin. Maintenant, je veux souligner, donc, la fin du verset 13, ce qui devient ancien. Par l'introduction de la nouvelle chose, de la nouvelle alliance en principe, donc par anticipation, par ce nouveau sacrifice, par ce nouveau sacrificateur, les choses premières deviennent anciennes. Et cette alliance vieillit. Ce qui devient ancien, c'est le même mot qu'on a dans paléontologie, ce sont des choses qui sont vieilles, ça c'est clair, anciennes. Et vieillir, ce qu'on a dans le mot gérontologie, c'est la science le processus de vieillissement. Donc c'est tout par rapport à cela, des choses qui vieillissent, en contraste avec les choses que le Seigneur Jésus a introduites. Ce qu'on voit avec le Seigneur, est-ce qu'il y a des choses qui vieillissent avec le Seigneur? Pas du tout. Avec le Seigneur, tout est beau, tout est neuf, tout est vivant. Avec le Seigneur, il n'y a pas de pensée de choses qui deviennent anciennes ou qui vieillissent. Mais ce système, comme j'ai dit tantôt, était pour disparaître. C'était encore permis par Dieu que ça reste encore quelque temps avant que ça disparaisse. Mais ça, c'est le point du verset 13, c'est prêt de disparaître. Et il faut se rappeler que l'Épître a été écrite juste avant la destruction du Temple, autour de 66. Peut-être la lettre a été écrite 65, peut-être ils l'ont reçue 66, mais autour de ce temps-là, et j'ai expliqué cela au premier chapitre déjà, c'était juste avant la destruction du Temple. Donc c'était littéralement vrai, ce qui vieillit est prêt de disparaître. Ainsi, nous voyons des contrastes énormes entre les choses qui existaient encore dans ce temps-là et les nouvelles choses qui avaient été introduites par le Seigneur Jésus. De grands contrastes. On en parlera maintenant, chapitre 9, premier verset. La première, c'est ici une référence à la première alliance. Et il faut aussi lier ça à la loi, chapitre 10, premier verset. Nous dit, car la loi ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses. Donc, la loi présentait certaines choses qui étaient l'ombre des biens à venir. Et dans le même contexte, chapitre 9, verset 1er, nous dit, la première alliance, qui va ensemble avec la loi de Moïse, avait aussi des ordonnances, qui étaient donc des ombres, comme chapitre 10, verset 1 nous le montre. Des ordonnances pour le culte. Voilà, il y a des parallèles. Dans le nouvel ordre de choses, il y a aussi des ordonnances. Il y a aussi le culte. Mais il y a des grands contrastes. Par exemple, au verset 14, qu'est-ce qu'on lit là? À la fin du verset 14, pour que vous serviez le Dieu vivant. Maintenant, le verbe servir ici, c'est le même mot dans l'original que le culte du premier verset. Donc vous voyez, il y a un parallèle. L'ancien ordre de choses, le culte pour servir Dieu. Nouvel ordre de choses, un service du Dieu vivant. Quel contraste! Donc parallèle, contraste. Le sanctuaire, premier verset, c'est un sanctuaire terrestre. Et vous comprenez déjà, c'est en contraste avec le sanctuaire céleste où le Seigneur Jésus se trouve maintenant. Un contraste énorme, mais aussi un parallèle, un sanctuaire dans les deux cas. Donc on voit que les choses sur la terre, le sanctuaire terrestre, typifie, est une figure de ce qu'il y a, de ce qu'il y a dans le ciel. Et ainsi Dieu avait donné ça à Moïse. Ça aiderait beaucoup pour lire Exode 25, etc. Et Paul, supposons que l'auteur c'est Paul, j'aime croire ça, il réfère à ces choses dans l'Exode, il donne un petit résumé, verset 2 jusqu'au verset 5, il donne un tout petit résumé. Pourquoi? Ok, il faut comprendre cela. Dieu voulait sortir pour être avec son peuple. Dieu voulait se manifester. Il s'est manifesté par les symboles du tabernacle, par l'arche. Dieu s'est manifesté par toutes ces instructions. Dieu est sorti pour rencontrer son peuple autour de l'autel de l'airain. Ensuite, par le sacrificateur, Exode 28, le sacrificateur pouvait entrer pour être dans la présence de Dieu. Donc ainsi, il y avait cette pensée-là. Dieu sort pour rencontrer l'homme. Ensuite, il veut introduire l'homme dans sa présence. Ça, c'est l'image. Mais à cause de la faiblesse de l'homme, ça ne pouvait pas vraiment fonctionner selon les plans de Dieu. Pourtant, le tabernacle comme tel était vraiment un reflet des choses célestes, comme on verra au chapitre 10, des ombres des biens à venir. C'était vraiment pour refléter la réalité du ciel. Mais à cause des limitations du premier ordre, ça ne pouvait pas fonctionner d'une façon idéale. Et on verra cela tantôt par rapport à l'autel pour faire brûler l'encens, par exemple. Là, on verra quand même un exemple des limitations de l'ancien ordre. Un petit détail encore. Verset 1er, un sanctuaire terrestre est quelquefois traduit un sanctuaire en anglais, worldly. Ça veut dire qui appartient à ce monde. Mais pas dans le sens négatif, si on parle de mondain, ça c'est pas le sens, mais c'est donc attaché à l'ordre de choses présent. C'est ça la pensée. Maintenant le verset 2. Un tabernacle fut construit. Donc, il réfère maintenant à ce qu'on voit dans Exode 25 jusqu'à 31, tous les détails qu'on voit là. Le mot tabernacle revient souvent dans ce verset, et on verra aussi de grands contrastes. Ici, le tabernacle était construit. Le mot construire veut dire préparer. C'est le même mot qu'on a vu dans Hébreux 3. Celui qui bâtit, c'est Moïse. Moïse qui a bâti tout. Et le mot veut dire préparer. C'est le même mot qu'on trouve dans Luc 1, un peuple préparé. Jean le baptiseur, il fallait qu'il prépare un peuple pour le Seigneur. Il prépare le chemin pour le Seigneur. Ce mot est utilisé ici. Et au verset 6, on a le mot disposer. Ces choses étant ainsi disposées, c'est encore le même mot qu'on trouve dans verset 2, construit. Donc le mot construire ici au verset 2, c'est dans l'original le même verbe que disposer au verset 6. C'est bon de savoir ça. C'est le même mot qu'on retrouve plus tard avec Noé qui a préparé l'arche pour sa famille. Préparer, bâtir, disposer, c'est la même pensée. Donc le tabernacle fut préparé, construit. Le premier. Maintenant le premier veut dire la première partie du tabernacle. On Israël, il y avait le saint, le Dieu saint, et le saint des saints, verset 4. Et ainsi, le premier ici est appelé le lieu saint. Donc il ne faut pas mélanger ça avec la première alliance, dans lequel était le chandelier, la table et la proposition des pains. Il y a plusieurs choses qui étaient là pour le service journalier. Les sacrificateurs entraient là tout le temps pour servir. Lévitique 24 donne des détails et d'autres passages. C'est très beau. Maintenant, le verset 3. Après le second voile, un tabernacle qui est appelé Saint des Saints. Dans Exode 26, vous pouvez voir ça. Et là, nous avons donc une illustration des choses célestes. Parce que ce second voile existe aussi dans le ciel. Est-ce que vous savez? On l'a vu dans chapitre 6, Hébreux 6, verset 19. On a lu au verset 19, laquelle nous avons une espérance, laquelle nous avons comme une ancre de l'âme, sûre et ferme, et qui entre jusqu'au dedans du voile, où Jésus est entré comme précurseur. Donc, dans le ciel, il y a un voile, mais le voile n'est pas pour qu'il n'y ait pas d'accès. Le voile est là pour faire la différence entre le service, comme on voit figuré par le chandelier, la table, etc., et le service qui va ensemble avec l'arche elle-même. Là, il y a un voile. Et nous verrons au chapitre 10, verset 19, que nous avons maintenant déjà, donc les croyants aujourd'hui ont la pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile. Le voile est encore là, mais nous avons un libre accès. C'est ça qu'on verra. Le voile est là, mais le Seigneur est là, l'autre côté du voile. Et ainsi, nous avons un libre accès. Tandis que dans l'Ancien Testament, le voile était là, ce second voile, c'était une barrière. C'était pour montrer, halte, ici tu ne peux pas entrer. Et même le souverain sacrificateur qui entrait là, on verra au verset 7, une fois par année, avec l'encens, ensuite avec le saint, il pouvait seulement entrer une fois par année. Donc ça veut dire, il n'y avait pas d'accès, un libre accès, pas du tout. La seule exception, je ne veux pas vous confondre là, mais la seule exception, c'est Moïse. Moïse avait l'accès continuellement. Moïse est un exemple du Seigneur Jésus, mais il est aussi un exemple des croyants d'aujourd'hui. Comme Moïse avait un accès pour être dans la présence de Dieu tout le temps, nous avons ce même accès. Donc, il faut penser à ça. Maintenant, je reviens au verset 2. Un tabernacle qui est appelé Saint des Saints. Donc, maintenant, le mot tabernacle est par rapport au Saint des Saints. Vous voyez? Au verset 2, l'emphase par rapport au tabernacle est sur le premier, pour la première partie, le lieu saint. Tandis qu'ici, le tabernacle est par rapport au Saint des Saints. Et un peu plus loin, je veux le mentionner déjà maintenant, au verset 7, le second est mentionné encore une fois, sans le mot tabernacle, mais c'est encore le même lieu. Et là, on verra au verset 6, le premier tabernacle, comme un système, comme l'ensemble. Donc, je ne veux pas vous confondre, mais il faut lire avec soin. Tabernacle veut dire une fois le lieu saint, une autre fois le lieu très saint, une autre fois ça veut dire tout l'ensemble, et une autre fois, ça se réfère au Seigneur Jésus lui-même. Au verset 8, le premier tabernacle, c'est tous les systèmes anciens. Mais au verset 11, Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait. Vous voyez, là on voit le même mot tabernacle, mais là, ça ne se réfère pas au vieil ordre de choses. Là, le mot tabernacle est utilisé par rapport au Seigneur Jésus. parce qu'il a tabernaclé au milieu de nous. Jean 1, verset 14, il a habité au milieu de nous. C'est le même mot. Il a tabernaclé au milieu de nous. Donc là, le mot tabernacle, c'est par rapport à l'incarnation du Seigneur Jésus. On revient au verset 3. Dans ce contexte, il n'y avait pas de libre accès. Tandis que nous voyons que ce voile était déchiré au moment où le Seigneur Jésus est mort. Dans Luc 23, 45, et aussi je pense dans Marc, c'est mentionné, et aussi dans Matthieu, le voile a été déchiré d'en haut en bas. Pas par l'homme, par Dieu lui-même. C'était pour indiquer que le vieil ordre de choses a été mis de côté. Donc, lorsque cette épître a été écrite, supposons l'an 66, le Seigneur est mort probablement l'année 30. Donc, il y avait déjà 36 ans plus tard que Dieu avait déjà mis de côté ce système. En principe, le système, le vieux système fonctionnait encore, mais Dieu l'avait déjà mis de côté. Et Dieu avait donné la démonstration en déchirant ce voile dans le temple. Maintenant, il ne faut pas confondre cela avec le voile dans le ciel. Dans le ciel, il y a encore un voile. Mais ce voile n'est pas pour dire « Ah !» Ce voile est là pour nous donner un accès, comme on verra tantôt. Verset 4, ayant l'encensoir d'or. Maintenant, on voit donc les limites de ce vieux système. Selon ce verset, nous voyons que la pensée de Dieu était que l'autel pour faire brûler l'encens devrait être placé tout près de l'arche, l'autre côté du voile. Mais à cause de limitations, selon ce premier système, Dieu a ordonné que l'autel pour faire brûler l'encens serait à ce côté du voile, avec le premier, le lieu saint. On peut voir ça dans Exode 26. Mais selon les pensées de Dieu, ça devrait être l'autre côté du voile, avec l'arche. Et ce qu'on voit ici, le mot encensoir, donne la preuve de cela. Ce vase, l'encensoir d'or, était utilisé le jour, le grand jour de propitiation, dans le Lévitique 16. Cet instrument, ce vase, l'encensoir d'or, était utilisé pour que le sacrificateur, le souverain sacrificateur, puisse apporter d'abord l'encens. Lévitique 16 montre cela. Et ce vase nous parle de cela. Donc, tout près de l'arche de l'Alliance. On ne parle pas de tous les détails de l'arche maintenant, parce que l'arche est appelée de plusieurs noms. L'arche de Jéhovah, l'Éternel, l'arche de Dieu, l'arche de l'Alliance, l'arche du témoignage, plusieurs noms pour l'arche. Ici, c'est l'arche de l'Alliance, le lien qui existait entre Dieu et son peuple, l'engagement de Dieu, de la part de Dieu pour son peuple. Cette arche est donnée, il y a un peu plus de détails, parce que cette arche est quand même une figure du Seigneur Jésus. C'est vraiment une image de l'Ancien Testament, une ombre, comme chapitre 10 nous le montre, une ombre très spéciale qui nous parle du Seigneur Jésus. L'arche était faite de bois de sittim, acacia, ça veut dire incorruptible. Ça parle de son humanité, couvert d'or, en dedans et d'or et tout autour. Ça nous parle de sa divinité, dans laquelle était la cruche d'or. Encore selon les pensées de Dieu, l'or qui parle de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui était dans la cruche? La manne. La manne, c'était la provision de Dieu pour son peuple pour traverser le désert. Exode 16, vous pouvez lire la manne qui venait du ciel. Et c'était chaque jour nouveau, sauf le septième jour, sauf le sabbat. Il y a à peu près 7 miracles à noter par rapport à la manne dans Exode 16. Un miracle était que la manne qui était dans la cruche d'or ne se corrompait jamais. Si quelqu'un gardait la manne un jour trop, ça se corrompait. C'était plus bon. Tandis que la manne qui restait là, dans la cruche d'or, restait toujours bonne. Pourquoi ? Ça nous parle encore du Seigneur Jésus. Il est Dieu, l'or, il est aussi la parfaite manne. Ça nous parle de son humanité, comment il était toujours dépendant de Dieu. La verge d'Aaron nous parle encore du Seigneur Jésus, mais là, comme le souverain sacrificateur, qui a fonctionné par la vie de résurrection. Aaron, sa verge, a produit des fleurs. Vous pouvez voir ça dans Nombre 17. Ça nous parle de la vie de résurrection. Et encore, on voit cela avec le Seigneur Jésus. Hébreux 10, que les deux tables de l'Alliance nous parlent de la volonté de Dieu. Et le Seigneur Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu. Et ainsi, maintenant dans la gloire, il maintient toute la volonté de Dieu. Il prend toujours soin de la volonté de Dieu. Verset 5. Au-dessus de l'arche des chérubins de gloire. Les chérubins étaient là pour maintenir les droits de Dieu, la sainteté de Dieu, mais surtout ses droits, sa majesté. Et il est dit ici, ils ombrageaient le propitiatoire. Ce verbe, avec un autre préfixe, mais se trouve aussi dans Luc 9 et dans Marc 9, où le Seigneur était sur la montagne de la transfiguration. Là, une nuée a couvert le Seigneur Jésus. Comme ici, les chérubins ont ombragé le propitiatoire. Ainsi, le Seigneur Jésus était sous la nuée qui nous parle de la gloire Shekinah, la gloire de Dieu. Et les chérubins étaient là sur le propitiatoire. Le propitiatoire était le couvercle qui était mis sur l'arche pour protéger l'arche, excusez-moi, pour fermer l'arche et pour protéger ce qui était là-dedans, les tables de l'Alliance. Était protégé par le propitiatoire. Sans ce propitiatoire, Dieu aurait dû tuer le peuple tout de suite, parce que le peuple n'était pas en accord avec les tables de l'Alliance. On a vu, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois, avec la nouvelle Alliance, que la loi sera écrite sur les cœurs du peuple dans les jours à venir. Et pour nous, on a vu, Christ est écrit sur les tables de nos cœurs. Ça c'est qu'on a vu la dernière fois. Et cette table de l'Alliance était maintenant préservée par ce propitiatoire. Et les chérubins étaient là pour voir si tout était en ordre. Les chérubins ont regardé, leur face était dirigée vers le propitiatoire. Et qu'est-ce qu'ils ont vu le grand jour de propitiation? Ils ont vu le sang. Et ils ont accepté cela. Si Dieu ne pouvait pas accepter cela, le souverain sacrificateur serait mort à l'instant même. Les chérubins étaient là pour voir si tout était correct. Tout était correct et le souverain sacrificateur pouvait sortir. Donc, la fonction des chérubins est vraiment très importante. Ils sont là pour maintenir la gloire de Dieu. Et si vous voulez comparer cela avec Romains 3, verset 25, ce mot propitiatoire se retrouve seulement deux fois dans le Nouveau Testament. Et dans Romains 3, nous voyons immédiatement le lien avec le saint. Parce que dans Romains 3, nous voyons Christ comme sacrifice pour le péché. Comme nous verrons plus tard dans Hébreux 10, le Seigneur comme sacrifice pour le péché. Et dans Romains 3, nous voyons que nous sommes maintenant justifiés gratuitement par la grâce de Dieu, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Verset 25, Romains 3, verset 25, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire. Donc qui est le propitiatoire maintenant? C'est le Seigneur Jésus lui-même. Il est le sacrifice. Il est aussi le propitiatoire. Et c'est par la foi que nous saisissons ces choses. Par la foi en son sang. Son sang était mis sur le propitiatoire. Donc on voit son sacrifice. On voit son sein, on voit le propitiatoire, C'est tout le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, on a vu cela dans Hébreux 2, il était le sacrificateur qui a présenté ce sang aussi. C'est vraiment incroyable. Paul dit ici, à la fin du verset 5, Hébreux 8, verset 5, sur quoi nous n'avons pas à parler dans ce moment en détail. Donc, on va continuer maintenant, mais c'est juste pour établir le point que ces choses étaient une illustration des vérités merveilleuses. Il donne les grandes lignes. Mais ces choses avaient aussi beaucoup de limitations parce que c'était par rapport à la loi, c'était par rapport à la première alliance. Verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entrent constamment dans le premier tabernacle. Là, il y avait un libre accès, accomplissant le service. Et c'est encore le service, comme on voit au verset 1er, le culte. C'est le même mot. Verset 7. Mais dans le second, donc ici, le second, c'est le lieu très saint, le saint des saints, le seul souverain sacrificateur pouvait entrer. Seulement une fois par année. Non sans du sang. Donc ça veut dire, l'accès était, c'était inaccessible. Il n'y avait pas d'accès. Et même pour le souverain sacrificateur, c'était très limité. Qu'est-ce que le verset 7 ajoute encore? Le sang qu'il offre pour lui-même. Vous voyez le contraste avec le Seigneur Jésus? On verra plus tard, le Seigneur a donné son propre sang, mais pas pour lui-même. Il n'avait pas besoin d'un sacrifice pour lui-même. Mais le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament avait besoin d'un sacrifice pour lui-même. Lévitique 16, et c'est confirmé ici. Et pour les fautes du peuple, ça c'est important à saisir. Les fautes du peuple, c'est les péchés de l'ignorance. Si un juif ou un israélite a commis un péché en se rebellant contre Dieu, il n'y avait pas de sacrifice pour ça, pas de sang pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit à la croix? Le Seigneur Jésus était meurtri par les Juifs et par les Romains. C'était un meurtre. Qu'est-ce que le Seigneur a prié? Père, pardonne-leur. Par cette prière, Dieu a vu ce grand péché, ce meurtre, comme étant un péché d'ignorance. Le Seigneur a prié, Père, pardonne-leur. Dieu a vu ainsi ce même péché maintenant comme un péché d'ignorance. Et c'est pour cela que Dieu a pu offrir plus tard, dans Actes 2 et 3, le salut sur la base de l'œuvre du Seigneur Jésus. Le sacrifice était maintenant suffisant et Dieu a pu offrir la grâce encore à ce peuple. Parce que Dieu voyait ça comme une faute, un péché d'ignorance. Autrement, il n'y aurait pas de sacrifice. Et on verra cela plus tard dans Hébreux 10. Un péché de rébellion, là il n'existe pas de sacrifice. Maintenant j'aimerais souligner, verset 8, l'Esprit Saint indiquant ceci. C'est tellement beau. J'ai dit tantôt, c'est Paul qui est l'auteur de cette épître. Oui, probablement c'est Paul. Mais en même temps, c'est l'Esprit Saint qui est l'auteur de cette épître. C'est l'Esprit Saint qui a écrit. Par un homme de Dieu. Deuxièmement, l'Esprit Saint est l'interprète. L'Esprit Saint interprète les choses. Et il indique les choses. Verset 8. Le chemin des lieux saints n'a pas encore été manifesté dans disque que le premier tabernacle a encore sa place. Donc, aussi longtemps que ce vieux système fonctionne, comme c'était le cas, jusqu'à la mort du Seigneur Jésus, il n'y avait pas de place pour un nouveau système. Mais le Seigneur est mort, et ainsi il a introduit ce nouveau système. Et ce nouveau système, comme on a vu, ne peut pas aller ensemble avec le vieux système. Dans le temps, les deux allaient ensemble, mais en principe, Dieu avait mis de côté le vieux système déjà, moralement. Dans le temps, c'était plus tard, c'était dans l'année 70. Verset 8 indique donc le chemin était pas encore manifesté. Maintenant, avec le sacrifice du Seigneur Jésus, un sacrifice parfait, le chemin est ouvert, le chemin est manifesté. Verset 9. Le premier tabernacle a encore sa place, comme on a vu, c'était des images selon les pensées de Dieu, et ce premier tabernacle avait sa place, et ainsi elle était une figure. Le mot figure veut dire une parabole, comme le Seigneur a donné beaucoup de paraboles pour expliquer des choses, pour illustrer des choses, et ainsi ce vieux système a fonctionné comme une parabole, pour une figure pour le temps présent. C'est un peu compliqué, mais le temps présent donc implique ce que j'ai dit tantôt, le temps de transition où ces Juifs ont vécu. C'était déjà un temps de transition, mais le vieux système fonctionnait encore comme une figure dans ce sens-là, tandis que Dieu l'avait déjà en principe mis de côté. En même temps, ce vieux système était une illustration par rapport aux choses à venir, comme verset 10 le dit, le temps du redressement. Donc, le système, le vieux tabernacle, le système que Dieu a donné, les ombres, était en soi une illustration de ce que Dieu va donner dans le millénium. Ok, mais je veux encore revenir au verset 9, dans lequel sont offerts des dons et des sacrifices qui ne peuvent pas rendre parfait. Vous voyez, ce vieux système était une figure, mais c'était très limité, parce que par rapport à ce système-là, les sacrifices ne pouvaient pas rendre parfait. Tandis qu'avec le sacrifice du Seigneur Jésus, il y a la perfection, verset 14, et aussi chapitre 10, verset 14. Ça, c'est deux versets clés à retenir. Je vais lire maintenant chapitre 10, verset 14. Par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Donc ça résume dans quelques mots l'efficacité de ce sacrifice du Seigneur Jésus. Ça rend parfait. Tandis que tous ces milliers de sacrifices du verset 9, chapitre 9, verset 9, du vieux système, ne pouvaient pas rendre parfait quant à la conscience, lui qui rend le culte. Ils pouvaient seulement purifier d'une façon cérémonielle et d'une façon temporaire, mais il ne pouvait jamais rendre parfait et ni donner un libre accès. Verset 9 dit celui qui rend le culte. C'est encore dans le contexte du vieux système, le service de Dieu par rapport au vieux système. Tandis que pour nous, si vous voulez prendre ça en note, Philippiens 3, verset 3, le même mot, c'est le culte, nous rendons culte maintenant par l'Esprit de Dieu. Nous avons ce libre accès et nous pouvons rendre culte par l'Esprit. Dans Romains 12, nous avons le même mot, nous pouvons donner notre corps comme un sacrifice vivant, et ainsi, il est dit, c'est notre service intellectuel. C'est le même mot service, mais de ce nouvel ordre de choses, pas de ce vieil ordre de choses. Verset 10, ça spécifie encore ce vieux système des viandes, des breuvages, diverses ablutions, ordonnances charnelles imposées jusqu'au temps du redressement. Donc c'était en vue d'un nouvel ordre de choses où Dieu allait mettre les choses droit. Ce temps va encore venir, ce sera le millénium. Et ainsi ce vieux système était en vue de l'introduction d'un nouvel ordre de choses comme Dieu va le faire au millénium. Mais, maintenant le grand mais, nous avons déjà spirituellement le temps du redressement. Nous sommes déjà en règle avec Dieu. Nous avons été introduits dans un ordre de choses où tout est déjà correct selon les pensées de Dieu. Spirituellement. Pas dans le temple physique sur la terre. Mais nous avons cet accès dans le lieu saint, dans le sanctuaire céleste. Et là, tout est selon les pensées de Dieu. Tout est vraiment dressé comme il faut, préparé comme il faut. Donc on voit des parallèles, des contrastes encore une fois. Ici, ce mot, jusqu'au temps du redressement, indique déjà que ce premier ordre, quoique ce soit une figure qui est bonne, était temporaire, c'était pour un temps limité. Ce sera mis de côté officiellement, et c'était donc moralement déjà mis de côté par Dieu. Verset 11, Christ étant venu. Si vous voulez étudier ça en détail, on trouve le nom Christ 12 fois dans l'hébreu. 12 fois le nom Christ. Christ veut dire oint. Dieu l'a oint dans le ciel. Et là, Dieu l'a couronné de gloire et d'honneur. Ici, nous le voyons comme étant venu dans le temps. Verset 11. Étant venu. Il est venu dans le temps. Mais sur la terre, il n'était jamais souverain sacrificateur. Sauf par rapport à la croix. On a vu ça dans Hébreu 2. Mais qu'est-ce qu'on lit ici au verset 11? Souverain sacrificateur des biens à venir. Christ étant venu. Mais ici, sa venue est vue en même temps avec les résultats de sa venue. La venue est vue par rapport aux résultats et qu'il est maintenant dans la gloire. Et dans la gloire, il est souverain sacrificateur des biens à venir. Encore une fois, il est là et on voit en lui déjà la garantie des choses que Dieu va établir dans le millénium. Hébreu nous parle du monde à venir. Il y aura un nouveau monde ici sur la terre. Tout sera changé. Un nouveau monde. Un nouvel âge. Pas le nouvel âge duquel les gens parlent maintenant, mais ce sera le nouvel âge de Dieu. Et ainsi, le Seigneur Jésus sera là pour fonctionner comme le souverain sacrificateur des biens à venir. Un monde à venir, un âge à venir, des biens à venir. Tout par rapport au Seigneur Jésus. Notons maintenant comment le Seigneur Jésus est venu, verset 11, par le tabernacle plus grand. On a le mot tabernacle ici, mais c'est ici par rapport à l'incarnation. Le Seigneur est venu, la parole est devenue chair, et ainsi on voit en lui un tabernacle plus grand, parce que Dieu a habité en lui. Colossiens 1 dit que Dieu, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitaient en lui. Il était le tabernacle dans ce sens-là, une habitation de Dieu, plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main. Ça se comprend. Et ainsi, Dieu n'habite pas dans un temple fait de main, mais il habite dans ce tabernacle, il habite en Christ. Verset 11 à la fin, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création, vous voyez? La venue de Christ, il est entré dans cette création, mais pas comme appartenant à cette création, à cette première création. Le Seigneur est le chef d'une nouvelle création. Et ainsi, il est venu. Même lorsqu'il était un bébé dans la crèche, il était déjà représentant de cette nouvelle création. Donc Dieu se manifeste dans ce tabernacle. Et au verset 12, nous voyons maintenant l'heure de l'expiation. Si le Seigneur Jésus était venu en chair, seulement, ce ne serait pas suffisant. Il fallait qu'il se donne en sacrifice, et c'est ça qu'on voit au verset 12. Ensuite, ayant donné son sacrifice, il présente le sang à Dieu. On verra cela. Non avec le sang de bouc et de veau, comme dans le jour de propitiation, mais par son propre sang. J'aimerais traduire par son propre sang. Parce que le Seigneur n'est pas entré dans la gloire avec du sang. Il est venu par son propre sang. Il a versé son sang et Dieu a accepté ce sang et ainsi il a pu entrer dans le ciel. L'accès était libre. Le même moment qu'il est mort, on a vu, le voile était déchiré par Dieu. Dieu a vu la valeur du sang. On voit ici le résultat immédiatement. Ensuite, entrer une fois pour toutes. Donc on voit l'incarnation du Seigneur, le tabernacle, et il est encore dans la gloire, le tabernacle, où Dieu habite, la Trinité habite en lui. On voit ici qu'il s'est donné en sacrifice, et le sang, il y a beaucoup d'emphase sur le sang dans chapitre 9 et 10. Le sang, c'est pour expier nos péchés, c'était aussi la preuve qu'il était le substitut, il a pris le jugement de Dieu à notre place, et il était aussi la propitiation, veut dire, sur la base de son sacrifice, Dieu peut être propice envers tous. Le Seigneur est mort pour tous, mais il n'était pas le substitut pour tous, il était le substitut pour tous ceux qui allaient croire. Ça, c'est quelque chose à réfléchir. Verset 12, avec son propre sang ou par son propre sang, il est maintenant entré. Ça, c'est la troisième étape. Il est maintenant dans la gloire, dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. On voit donc ces contrastes immenses. Le vieux système était temporaire, l'accès n'était pas là, il y avait toujours un autre sacrificateur, on a vu cela aussi dans le chapitre 7. Maintenant, un seul sacrificateur, un seul sacrifice, et il est là pour toujours. Le mot rédemption, verset 12, veut dire une libération. C'est pour libérer son peuple qui était sous l'emprise de l'ennemi. Ainsi, on trouve ce mot aussi dans Luc 1 et 2 pour souligner cet aspect de la libération. Verset 13, car si le sang de bouc et de taureau et la cendre d'une génisse avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souillés sanctifie pour la pureté de la chair, là on voit donc les provisions de Dieu dans le désert, Lévitique 16, le jour de propitiation, Nombre 19, l'eau de purification, et ça pouvait sanctifier d'une façon rituelle, d'une façon cérémonielle. Ce sang ne pouvait pas purifier l'homme à l'intérieur, ne pouvait pas effacer les péchés, pouvait seulement couvrir les péchés, pouvait seulement purifier d'une façon extérieure, rituelle, cérémonielle. Tandis que le sang de Christ purifie même la conscience. Au verset 14, on verra, purifie votre conscience des œuvres mortes. C'est suffisant pour purifier des œuvres mauvaises. Est-ce que vous avez déjà fait des œuvres mauvaises? Je pense, chaque être humain a fait des œuvres mauvaises. Et le sang est nécessaire pour ces œuvres mauvaises, méchantes. Mais même comme les Juifs étaient sous la loi et sous tout cet ordre religieux, ils pouvaient faire un grand effort pour plaire à Dieu. Et même dans ces efforts-là, leur effort était des œuvres mortes. Ça ne pouvait jamais produire quelque chose. Et même de ces œuvres mortes, il fallait être purifié. Et même le sang de ces boucs qu'ils présentaient ne pouvait pas purifier la conscience des œuvres mortes. C'était impossible. Ça pouvait couvrir pour un temps, et puis, après, si quelqu'un a commis un péché, il fallait un nouveau sacrifice. Et ainsi, il ne pouvait jamais avoir une conscience purifiée, une conscience libre, une conscience parfaite. Verset 9, il ne pouvait pas rendre parfait quant à la conscience. Parce que une seconde après, il pouvait pécher. Et puis, tout le processus recommençait. Et il fallait qu'il attende encore pour le grand jour de propitiation pour l'année prochaine. Parce que ce sacrifice était pour enlever même les péchés qu'on ne savait pas, les péchés d'ignorance. Mais si quelqu'un avait commis un péché, il fallait qu'il apporte un sacrifice tout de suite. Maintenant, j'aimerais encore revenir au verset 12. Le Seigneur est donc entré une fois pour toutes. On revient souvent dans cet épître à cette expression. Une fois pour toutes veut dire aussi, il est là continuellement. Il est là maintenant, il n'a pas besoin de sortir, entrer. Il est entré, il reste là, une fois pour toutes. Et ce que j'ai dit, pour le souverain sacrificateur, si ça s'applique au Seigneur Jésus, ça s'applique aux croyants maintenant aussi. Nous sommes vus par rapport à lui dans la gloire. Et on verra cela dans Hébreux 10. Donc il est entré, ça veut dire nous avons aussi une libre entrée. Ça c'est le résultat de toute son œuvre. Et je souligne encore ce mot rédemption éternelle. Tantôt j'ai dit ce mot rédemption veut dire libération, mais soulignons maintenant éternelle, c'est pour toujours. Vous voyez, en contraste avec le sacrifice sous la loi, ça pouvait enlever certaines choses, mais seulement pour un temps. Il y a aussi une référence dans cette épître à l'alliance éternelle, en contraste avec la première alliance. Il y a plus tard aussi une référence à un héritage éternel, et je pense même au verset 14 qu'on a lu. Non, pas au verset 14. Il y a d'autres passages qui nous parlent donc de ce mot éternel. Donc les résultats sont là pour toujours. Au verset 14, j'aimerais encore souligner le sang du Christ. On a vu dans Romains 3 l'importance du sang appliqué sur le propitiatoire. Ainsi, le Seigneur est le propitiatoire lui-même. C'est par son sang que ça fonctionne. C'est sous le regard de Dieu, les chérubins qui nous parlent du regard de Dieu. Tout est selon les pensées de Dieu. Il est le sacrificateur qui présente ces choses. Donc Dieu voit tout par rapport à Christ. Et toutes ces ombres de l'Ancien Testament se sont réalisées en Christ. Tous les aspects. Donc c'est vraiment important à comprendre cela. Tous les détails de l'Ancien Testament, de cet ordre de choses, étaient des symboles, des ombres, mais ces ombres ont été accomplies une fois pour toutes par le Seigneur Jésus. Là, on ne va pas revenir aux ombres. Ça, c'est le grand danger, qu'on revienne sur ces ombres. Et ça créerait encore une distance entre le peuple et Dieu. Donc, nous devons toujours jouir de ce libre accès et profiter de cela. Verset 14, par l'Esprit éternel. Tantôt, on a vu l'Esprit qui est l'auteur de la Bible, il est l'interprète. Ici, nous voyons que le Seigneur Jésus, lorsqu'il s'est donné comme sacrifice, il l'a fait par l'Esprit éternel. C'est beau de voir ça. Un homme dépendant de Dieu, il a fait tout cela par l'Esprit éternel. Il s'est offert lui-même. Ici, le mot offert veut dire, le verbe offrir veut dire se présenter. Il y a un autre mot dans l'original, lorsque ça s'applique au sacrifice pour le péché, qui était brûlé en dehors du camp. Là, il y a un autre mot. Mais ici, c'est pour se présenter comme agréable devant Dieu. Ainsi, le Seigneur Jésus s'est présenté sans tâche. On a presque fini, mais je veux souligner cette expression, sans tâche. Le Seigneur était sans tâche. L'incarnation, sans tâche dans sa vie, sans tâche, même lorsqu'il s'est donné à la croix, lorsque Dieu a dû se retirer de lui. Le Seigneur a crié, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Encore là, il était sans tâche, mais il a porté nos péchés. Et à cause de cela, Dieu s'est retiré de lui. Dieu l'a abandonné, parce que là, il est devenu le sacrifice pour le péché, comme on verra dans le chapitre 10. Mais ici, il est vu comme sacrifice qui se présente lui-même. C'est encore un mystère. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur présentait le sacrifice. Ici, le Seigneur Jésus est lui-même le sacrifice. Il est en même temps le sacrificateur qui présente le sacrifice. Et comme nous avons vu, il donne son sang. Il est en même temps celui qui présente le sang avec tous ses effets devant Dieu. Et ainsi, il y a un résultat immédiat, la purification. Mais j'aimerais maintenant faire une petite application. Comme le Seigneur Jésus était sans tâche, Dieu veut que nous soyons sans tâche. Et notre position en Christ, Éphésiens 1, verset 4, est sans tâche. Mais Dieu veut aussi que nous puissions marcher sans tâche, ici, dans ce monde. Ce serait toute une étude pour voir ces versets dans le Nouveau Testament qui nous parlent de cela. Maintenant, l'effet présent de cela, l'application, ce saint purifie notre conscience. Comme j'ai dit, dans l'Ancien Testament, le saint a couvert seulement les péchés. Le saint ne pouvait jamais effacer les péchés. Mais maintenant, le saint peut enlever les péchés et même plus que cela, purifier la conscience. Aujourd'hui, le Seigneur a encore un service de purification, mais ce n'est pas par le saint. Le service que le Seigneur Jésus a présentement, c'est dans la gloire pour nous purifier par le lavage de la parole. Ça, c'est une purification qui a lieu aujourd'hui dans la gloire. C'est le Seigneur qui nous prépare pour lui-même dans la gloire. Et ainsi, il travaille pour nous purifier. Mais ça, c'est par la parole, par l'eau de la parole. Ici, la purification est par le saint une fois pour toutes. Et pour quel but? Pour que vous serviez le Dieu vivant. Et je finis avec ça, on a vu, c'est le même mot que le culte au verset 1 ou au verset 6, ceux qui servent Dieu, qui accomplissent le service à la fin du verset 6. Ce mot revient souvent dans le contexte du vieil ordre. Mais ici, le mot servir ou rendre culte, c'est dans un nouveau contexte pour servir le Dieu vivant. Nous avons une relation avec le Dieu vivant. Le Dieu vivant, tout dépend de lui. On trouve l'expression 15 fois dans l'Ancien Testament, 15 fois dans le Nouveau Testament. Le Dieu vivant. Et vous et moi, on a le privilège de servir le Dieu vivant. Dans Luc 2, nous voyons un exemple. Anne, la prophétesse, elle a servi de Dieu vivant. C'est le même mot, servir. Tout le temps, elle venait dans le temple. Là, on voit un exemple.